Tumulte, le magazine de l'information et des musiques nouvelles de Radio PFM. Dans 30 minutes, nous recevrons Laurent Cordonnier, économiste et enseignant à l'université Lille 1. Mais d'ici là, une demi-heure de musique tumultueuse. C'est le contenu de ce tumulte numéro 1043. Jean au micro, salut. Minutes de tumulte musical en forme d'hommage à Willem Bruecker, disparu cet été, un grand du jazz libre européen, saxophoniste, compositeur et leader du Willem Bruecker collectif et du label autogéré BV Ast. Willem Bruecker, le Hollandais étonnant. We'll be right back. Le William Broker Collectif, enregistré en 1978. L'album s'appelle Summer in Paris, Summer Music. Le morceau, une composition, donc un exemple de composition de William Broker. Le morceau s'appelle Parabasis. C'est un exemple d'interprétation en grand orchestre, 10 musiciens, donc de la formation de William Broker. Autre exemple du travail créatif de William Broker. William Broker a tout relu, tout revisité, en particulier ici Prokofiev. Autre exemple du génie créateur de William Broker, les musiques de films, en particulier les musiques du cinéaste Johan van der Koken. On écoute ici Flat Jungle, William Broker. Thank you.
Thank you.
5 minutes de tumulte en forme d'hommage à Willem Brucker, disparu cet été. On va terminer cette évocation, et on reviendra bien sûr dans d'autres tumultes à la musique de Willem Brucker. On va terminer par Willem Brucker, compositeur pour le théâtre. Ici, un extrait de la musique qu'il a composée pour la pièce de Bertolt Brecht, Ball. Et juste après, ce sera le journal de tumulte avec Guy et Laurent. Voilà, évocation de Willem Brucker. Et la foire au disque de Radio PFM.
C'est bientôt la 14e foire au disque et bande dessinée à Arras, le dimanche 26 septembre, organisée par Radio PFM. Il y aura une cinquantaine d'exposants, ils proposeront des CD, DVD, vinyles et bandes dessinées à la salle des Orfèvres et des Tisserands à Arras. 14e foire au disque et bande dessinée, salle des Orfèvres et des Tisserands à Arras, avenue du Maréchal Leclerc, le dimanche 26 septembre de 10h à 18h. L'entrée est gratuite.
Journal de Tumulte avec Guy. Nous recevons Laurent Cordonnier, économiste et enseignant à l'université Lille 1. Et au sommaire de ce journal, la réforme des retraites, où en est-on du processus d'adoption par le Parlement et où en est-on aussi des mobilisations populaires. Et puis la fiscalité, les nouvelles recettes du gouvernement et puis ensuite quelques brèves.
Avant de commencer, tumulte de rentrée, on peut se permettre une petite devinette, genre, hein, avant de passer aux choses sérieuses. Alors, qui
la devinette s'adresse uniquement à moi, pas à l'invité.
Mais oui, mais non, il a dit que c'était avant de passer aux choses sérieuses.
Voilà, c'est ça. Ah, voilà, hein, donc, ouais. Donc bon, si l'invité a une idée, je pense qu'il pourra nous la donner. Voilà, alors, qui a dit « Le problème, c'est que mon équipe tombe souvent sur des arbitres de gauche. » C'est une phrase qui a été tenue suite
c'est,
à...
C'est-à-dire généreux avec ses adversaires, c'est ça?
Voilà.
C'est un arbitre de gauche.
C'est quelqu'un qui... Comment? Non. Alors, bon,
c'est une indication. Un entraîneur alors. C'est un entraîneur?
Non. Bon, alors, je vais être un peu plus précis. Le problème, c'est que le Milan tombe souvent sur des arbitres de gauche.
Berlusconi.
Bien, voilà. Heureusement que l'invité est là. Hein. Donc, effectivement, c'est les propos tenus par Berlusconi.
On aurait dû deviner tout de suite.
Ouais, qui est propriétaire de l'AC Milan. Hein. Bien sûr, genre, et qui est aussi chef du gouvernement italien. On ne sait pas ce qu'on met d'abord, mais en tout cas, c'est sûr, il est propriétaire de l'AC Milan. Et donc, il n'était pas content parce que son équipe a perdu contre un petit club qui vient de monter en première division italienne. Et donc, ça le fait pas, quoi. Donc, voilà, arbitre de gauche. Alors, à partir de là, je me disais, tiens, et si, comment supporter une équipe dont le propriétaire est un Berlusconi? Alors, on pourrait imaginer en France Sarkozy, quoi. Imaginons à Lens, le propriétaire de Lens, ce soit Sarkozy. Je ne sais pas s'il y aurait encore des supporters à Lens. Peut-être, oui, quand même. Qu'est-ce qui est le plus fort, le foot ou le...
Ça serait un sacré choix hein, quand même. Hein.
Bon, enfin bref, tout ça hein, pour dire que c'est tumulte de rentrée, hein, donc on s'accorde quand même un petit peu de détente avant de passer aux choses sérieuses, une rentrée sociale très sérieuse. C'était aussi pour un petit clin d'œil au foot, parce que quand on s'était vu la dernière fois ici, ben, c'était la Coupe du Monde, on avait discuté un peu de ceux que l'équipe continue à appeler les mutins. Ça me fait bien rigoler, mais enfin... Et donc, on avait parlé de la Coupe du Monde de foot, hein, qui est bien oubliée. Mais il me semble qu'on s'était vu aux alentours du 24 juin. Il y avait beaucoup de monde dans les rues. Et on se retrouve... C'était fin juin. Hein, je pense qu'on s'était vu, Jean, non, tu dis que... Hein, ou peut-être un peu avant. Et on se retrouve là quelques jours après une nouvelle journée de mobilisation où il y avait énormément, encore plus de monde dans les rues et aussi à Arras. Puisque
c'était deux jours avant le 24 juin, c'était le 22 juin.
C'était le 22 juin, tu vois, hein, donc...
Grande journée de mobilisation
voilà, on ne savait pas encore qu'il y aurait du monde le 24, il y a eu du monde le 24 juin.
Et encore plus le 7 septembre.
Encore plus le 7. Tu vois, genre quand même... Ça nous mène aux retraites.
Alors, pose ta première question.
Oui, je vais poser mes questions. Hein. Et dans les brefs, tu vas nous parler traditionnellement du bouquin que tu as lu. Hein, du
et non. Deux annonces, mais voilà. C'est vrai qu'on pourra parler des...
On parlera aussi des
disparus de l'été quand même, hein, parce que...
Il y a eu pas mal de disparitions.
On a parlé là, à l'instant, donc précédemment dans la demi-heure qui précédait de la disparition de Willem Brucker. C'est quand même important. Le Monde en a parlé.
Bien sûr.
Article dans Libé, article dans Le Monde. Et la disparition de Jaime Semprún.
Ouais.
Alors là, par contre, blackout. Hein.
Ouais, c'est vrai que tu m'as demandé de regarder, je ne l'ai pas encore fait.
Le Canard Enchaîné a fait un article.
Ouais.
Et après, par ailleurs, j'ai trouvé de...
Je regarderai quand même. Okay. Alors, Laurent, les retraites, hein, donc le texte du gouvernement a été adopté aujourd'hui à l'Assemblée, il doit encore être examiné au Sénat. Donc,
ça y est, il a été adopté dans son, globalement, totalement dans, à l'Assemblée.
Oui, il me semble.
Tout,
hein,
tout voté.
Oui, ah, d'accord. Il me semble. Enfin, bon, je ne sais pas si vous avez quand même vous avez sans doute écouté les informations. Il y a eu une session assez tumultueuse avec d'autres affaires qui viennent interférer, hein, notamment bon, l'affaire des sources journalistiques, hein, sur lesquelles l'Élysée aurait mandaté le service secret français. Hein, donc cet après-midi, l'Assemblée, ça a chauffé là-dessus. Plus la, bon, on ne va pas en parler, hein, l'affaire Dior. Mais enfin, on sent quand même un gouvernement, l'Élysée, fragilisé par des bêtises inexplicables, quoi. Le coup de la circulaire où on cite nommément les Roms alors que c'est hors la loi, une circulaire signée d'un directeur de cabinet, c'est surprenant, quoi. Hein, c'est... Bon, enfin bref. Donc je pense que la loi a été, enfin le texte a été adopté au Parlement. Alors si c'est, ça n'a pas été fait aujourd'hui, ce sera de toute manière fait demain, avec des députés de gauche, hein, du PS, du PC, des Verts, qui brandissaient des pancartes, hein, dans l'hémicycle, retraite à 60 ans, enfin, etc. Les pancartes qu'on a pu voir le 7. Laurent, à toi. Avec tout ça, j'ai perdu.
Oui.
C'est vrai que j'avais une question, hein, Jean, mais bon, ouais. J'ai perdu la question.
Non, mais on n'est pas surpris. Enfin, jusqu'ici, on n'est pas complètement surpris du résultat politique. Il reste quand même, on en dira peut-être quelques mots tout à l'heure, il reste l'interrogation sociale. Mais sur le volet des retraites, finalement, le plan est adopté pratiquement dans les mêmes termes que ce qu'il avait été concocté il y a 3 mois ou 6 mois par le gouvernement, avec donc les deux grands points forts de la mesure, c'est-à-dire le recul de l'âge légal de départ à la retraite de 60 à 62 ans, et puis le recul de l'âge pour bénéficier d'une retraite sans décote à 67 ans.
Alors faut peut-être
à 67 ans. Faut peut-être redire en deux mots en quoi ça consiste, parce que le recul de l'âge légal, l'âge légal n'est pas l'âge de départ obligatoire en retraite. C'est l'âge à partir duquel on peut cesser son activité et se retourner vers les régimes sociaux pour bénéficier d'une pension de retraite. Mais cette pension de retraite dépend bien entendu de deux choses, du nombre d'années cotisées, et elle en dépend très fortement. Parce qu'on peut prendre sa retraite à 60 ans et n'avoir cotisé que 30 ans, par exemple, auquel cas il manquerait rapidement 12 ans de cotisation. Ces 12 ans de cotisation occasionnent à la fois une perte en termes d'années non cotisées, hein, qui est de l'ordre de 1,8 ou 2 points par an non cotisés, donc ça, il faut s'en souvenir, et en plus de pénalités, de décote de l'ordre de 3%.
Non, mais
c'est pas un droit à toucher une retraite confortable.
Voilà, pour comment dire, résumer, quand cette loi, si hein, elle est adoptée définitivement et si elle est mise en application, donc en 2018, je pense, quelqu'un, hein, on pourra partir à la retraite à 62 ans,
oui.
Pas avant, hein, sauf dans certains cas.
Plus avant, oui.
Plus avant. Et pour bénéficier d'une retraite à taux plein, à 62 ans, il faudra avoir cotisé 41 années et demie.
Pour l'instant.
Pour l'instant.
Ce sera vraisemblablement 42 à ce moment-là.
Vers 42. Quelqu'un qui arrive à 62 ans, hein, qui arrivera à 62 ans, qui n'aura pas ses cotisations, il aura soit des décotes ou alors il continuera à travailler jusque 67, hein, par exemple, pour là.
Mais s'il le peut.
S'il le peut.
Parce que si c'est vraiment ça qui est, il faut le rappeler à chaque fois, c'est quand même ça qui est presque le mensonge de ce type de plan, c'est qu'on ne décrète pas le niveau de l'emploi en faisant une réforme des retraites. Donc si on décrète tout d'un coup que la population active va augmenter à peu près de 5%, d'effectifs, parce que c'est à peu près ça, augmenter de 2 ans ou 2 ans et demi la durée de cotisation ou l'âge légal de départ en retraite. On décrète donc que la population active augmente de 5%. C'est pas dans le programme des retraites qu'on crée les emplois qui vont avec. Bon.
Sauf dans la fonction publique.
sauf dans la fonction publique. Tout à fait. Et dans la fonction publique, c'est en train de marcher. Les gens arrivent effectivement à allonger leur carrière pour essayer d'éviter les décotes liées à l'augmentation de la cotisation.
Mais même les 62 ans.
On dira bientôt que les fonctionnaires sont des privilégiés.
Ouais. Parce qu'ils pourront travailler...
qu'ils pourront travailler plus longtemps que les autres. Ça, je vois arriver ce coup-là assez rapidement. C'est la grande hypothèque sous laquelle se traitent toutes ces questions. Bizarrement, personne n'en dit grand-chose dans les partis politiques. L'EPS préfère insister, il a sans doute raison, sur le fait que c'était la réforme la plus injuste qui puisse être pensée et imaginée, le fait de différer l'âge légal de départ à la retraite, parce que ça va toucher, ça va être pénalisant majoritairement pour des femmes qui auront des carrières très incomplètes. Et en partie, ça c'est surtout le fait de repousser l'âge d'une retraite à taux plein, à 67 ans, ça va être très pénalisant finalement pour les gens qui auraient eu leurs annuités à 60 ans et qui vont devoir prolonger, c'est-à-dire les gens qui ont commencé tôt.
Et qui auront donc trop d'annuités, entre guillemets.
Et qui auront, eux, trop d'annuités. Et puis effectivement, ce sera pénalisant pour ceux qui auront eu des carrières complètement mitées et qui de toute façon n'arriveront pas à 62 ans, seront déjà au chômage depuis longtemps. Quand ils passeront l'âge de 60 et a fortiori encore l'âge de 62 ans.
Donc,
c'était vraiment prendre le problème par le bout.
Vaut mieux des chômeurs que des retraités.
Mais budgétairement, oui.
Oui, parce que on dit que le report de 60 à 62 ans, c'est 1 million d'emplois en moins offerts aux jeunes.
Si effectivement il ne se crée pas d'emploi comme par miracle parce qu'on vote une loi sur les retraites, le calcul est vite fait. Exactement, c'est 1 million d'emplois.
Donc des jeunes qui rentreront encore plus tard dans la vie active.
Ils risquent effectivement de faire encore un peu plus le poireau dans la vie active, ne pas bénéficier d'allocations chômage parce qu'ils n'auront pas cotisé au chômage. De devoir attendre je ne sais pas quel âge pour bénéficier du RSA, mais le RSA, ça n'équivaut pas à une retraite à taux plein. Bon, donc, effectivement, budgétairement, il vaut mieux du chômage que de payer des pensions de retraite. Parce que d'abord, les indemnités chômage sont plus faibles que les retraites, même quand elles sont, à taux plein. Et puis, beaucoup de gens qui seront au chômage seront soit en fin de droit, soit n'auront pas constitué de droit.
Bon, Laurent, donc le projet de loi l'exposé des motifs débute de cette manière. Le présent projet de loi vise à rééquilibrer et pérenniser le modèle français de retraite par répartition. Donc est-ce que ce qui vient après va effectivement permettre donc de rééquilibrer? Alors bon, on bassine avec la situation catastrophique de la caisse des retraites. On nous assène aussi tout ce qui se passe ailleurs. On serait les derniers en France à avoir toujours une retraite à 60 ans, etc. Les problèmes de démographie. Et puis vient s'y ajouter une petite couche maintenant de crise. On ne parle plus de retraite par capitalisation. Mais en tout cas, donc, l'objectif, quand on lit cette première phrase, c'est un objectif qui pourrait être partagé par tout le monde, quoi. Rééquilibrer et pérenniser le modèle français de retraite par répartition. Alors est-ce que ce projet, toi tu penses que il va permettre d'atteindre cet objectif?
Ce qui est vrai, c'est qu'on a l'air de ne discuter que du système par répartition. Et donc on réforme bien ce système, on en modifie les règles. Dans l'esprit de certains, on le consolide, dans l'esprit des autres, on l'affaiblit. Mais en tous les cas, on traite la question au sein du système par répartition. Alors je dis en apparence parce que, en réalité, tout ceci va se traduire par une baisse très significative des pensions. Pas seulement la réforme qui vient d'être votée, mais toutes les réformes qui ont été votées depuis 2003 vont aboutir à une baisse des pensions avec des effets très forts parce que la règle qui veut qu'on n'indexe plus les retraites que sur l'inflation et non pas les salaires va de toute façon créer un décrochage très fort entre les retraités au fur et à mesure que s'écouleront leurs retraites, et le reste du salariat. Ça, c'est un effet très puissant qui a été adopté depuis plusieurs années. Mais surtout, l'exigence, on l'a dit tout à l'heure, d'avoir des années de cotisation en plus, jusqu'à 42 ans, va faire que beaucoup de gens auront des carrières incomplètes et donc des décotes et des retraites plus faibles. Donc en réalité, on ne consolide pas le système de retraite par répartition, on affaiblit les pensions. Voilà, c'est ça, c'est le vrai résultat. Et du coup, on augmente les signaux envoyés aux salariés suivant lesquels leurs retraites vont être médiocres. Et ces signaux sont extrêmement bien perçus, en particulier par les classes moyennes supérieures, qui se constituent une épargne retraite. Bon, la France est déjà un pays, on pourrait dire, anormalement épargnant. C'est déjà un pays qui a créé des systèmes d'assurance vie par capitalisation exorbitants et qui est pratiquement le plus développé de la planète. Donc on est déjà très fortement engagé dans des systèmes d'épargne, alors soi-disant d'assurance vie, mais en réalité desquels on peut sortir en rente et en capital et qui sont pratiquement des fonds de pension pour la retraite. Et donc on envoie le signal aux classes moyennes supérieures, bah écoutez, vous voyez, ça va être dur pour vous d'avoir une carrière complète, surtout que dans ces catégories sociales, on commence à bosser vers 23, 24, 25 ans, parce qu'on a fait des études d'ingénieur, on est allé à l'université jusqu'à un master deuxième année. Donc on dit aux gens, vous savez, à 65 ans ou à 63, vous aurez peut-être envie de partir et vous n'aurez rien, vous aurez une retraite fortement amputée. Et on a vu des organismes bancaires ou de la banque assurance se payer des pleines pages de pub dans les journaux pour dire, venez examiner nos formules d'épargne en prévision de la retraite. Donc, on fait semblant qu'on consolide le système par répartition, mais avec une arrière-pensée très claire qu'on est en train d'ouvrir un gros fromage pour l'ensemble du secteur bancaire et de la banque et de l'assurance pour concevoir des produits d'épargne retraite. Et puis demain, il suffira en mélangeant un petit peu bien correctement les choses, en discutant des niches fiscales, finalement épargner les niches fiscales liées à l'épargne retraite, voire même les renforcer, pourquoi pas. Et puis, on aura finalement un système à deux étages.
Au niveau du discours, il y a quand même un changement par rapport à 2003, c'est qu'effectivement, personne ne met en avant les fonds de pension. Il faut dire que ça serait...
un petit peu contre-temps. Osé,
ouais. Quand on voit la faillite que ça a donné, et puis bon, la ruine de milliers de personnes, en particulier aux États-Unis. Hein.
Aux États-Unis et aussi récemment, le coup est parti quand même avec l'effondrement des bourses, mais aux Pays-Bas. Le système des fonds de pension est au bord de l'asphyxie et ça va se traduire par des mesures ultra-violentes, c'est-à-dire de coupes claires dans le montant des pensions.
Donc le discours a changé à ce niveau-là, même si la conséquence des mesures prises dans la réforme au bout du compte sera le même. Et puis, on assiste beaucoup, bon, Guy y a fait référence, on assiste beaucoup, en tout cas dans le discours par exemple de Fillon, quand il est passé sur Antenne 2, sur le contexte européen. Tous les pays rallongent la durée du travail, la question de l'espérance de vie qui s'allonge. Donc voilà, regardez, on ne peut pas faire autrement. Quoi, hein.
Ça, oui. C'est... Oui. Bah, si on avait fait ça, on n'aurait pas eu la Révolution française, déjà. Hein, si on avait attendu les autres pour faire la Révolution française, nous ne l'aurions jamais eu. Bon, donc déjà, la comparaison n'est politiquement pas pertinente. On peut tout à fait, au sujet du système des retraites, prendre des voies originales. Et justement, c'est un domaine où s'exerce encore pleinement la souveraineté nationale. Et on comprend pourquoi, d'ailleurs. Parce que tous les systèmes sont différents. Donc, tous les systèmes sont différents. Donc, justement, procéder à des comparaisons sur ce sujet-là est complètement non pertinent. La question est justement comment nous pouvons partager le même espace économique avec des systèmes de retraite qui sont qui relèvent de l'histoire sociale, politique, économique des différents pays. Ça, c'est plus intéressant comme question. Donc, cette diversité est complètement viable. elle est complètement viable. Et chaque pays a fait des choix par le passé qui l'engagent un peu pour l'avenir et qui l'obligent à réfléchir avec ses propres institutions et non pas en regardant ce qui s'est fait ailleurs. Ouais. Par ailleurs, il y a une rouerie dans les comparaisons internationales, c'est qu'on oublie fréquemment de ramener la question démographique, ouais, précisément au moment où on fait les comparaisons internationales. Par contre, quand on nous dit, vous savez, ça va mal pour le système français parce que nous vieillissons et donc il va falloir travailler plus longtemps, on oublie que notre démographie est beaucoup plus favorable que la démographie de la plupart des pays européens, pour lesquels les taux de natalité sont extrêmement bas, voire préoccupants, sans être un farouche nataliste. Quand on cause des systèmes des retraites par répartition, évidemment que c'est une donne importante. Et quand on a des taux de fécondité de 1,3 enfants par femme, comme en Italie, 1,5 comme en Allemagne, 1,5 ou 6 comme en Angleterre, le problème est complètement différent aussi. Mmh. Voilà, et ça, on ne le ramène jamais dans le tableau.
Ouais, Guy, tu nous disais en rantaine, je pense qu'il y avait une tentative du monde de faire une comparaison des différents systèmes européens,
ouais,
mais en tenant compte de tout, parce qu'on nous parle tout le temps de l'âge de la retraite. Mmh. Il faut tenir compte des durées de cotisation exigées, du montant des pensions, du taux de natalité des différents pays.
C'est vrai, bonjour.
C'est dans quelle édition
C'est celui daté d'aujourd'hui, enfin du 14, hein, mardi 14. C'est compliqué. Bon, il y a aussi dans la presse syndicale, hein, mais c'est vraiment très, très compliqué. Moi, quand je regarde, par exemple... Alors, ce qui est sûr aussi, c'est que hein, tous les chiffres qu'on nous donne sur l'Allemagne, l'Angleterre, etc., ce sont des chiffres qui seront valables pour des réformes hein, qui ont été mises en place avec un calendrier nettement plus allongé que le nôtre. Hein, par exemple, en Allemagne, c'est 67 ans en 2029. Âge de la pension complète comme en France. Quoi. On parle beaucoup de Grande-Bretagne, 68 ans, Royaume-Uni, c'est prévu pour 2046. Alors il peut se passer beaucoup de choses d'ici là.
La Grande-Bretagne peut disparaître.
Voilà, exactement. Le nombre d'années de contribution, en Allemagne, à partir du moment où on a 35 annuités de cotisation, à 63 ans, on peut partir avec sa retraite à taux plein. Enfin, c'est vraiment très compliqué. Quand je regarde le tableau, aux États-Unis, aux États-Unis, c'est simple. L'ouverture des droits, c'est 62 ans. Âge de la pension complète, c'est 66 et ce sera 67 ans en 2027. Et le nombre d'années de contribution pour obtenir une pension complète, c'est 35. Alors maintenant, quelle retraite hein, il faut aussi... Voilà,
c'est pour ça que...
C'est très compliqué, mais en tout cas...
Non, mais c'est sans doute courageux et héroïque d'avoir essayé de produire cette comparaison, parce qu'il faut avoir ces éléments de comparaison. Mais finalement, on a l'impression qu'on n'est pas beaucoup plus renseigné une fois qu'on a tous ces détails, parce que derrière tout ça, c'est, oui, quelle pension, avec quelles règles de calcul de la pension, quels différents étages dans le système, etc. Je pense qu'on pourrait faire des comparaisons intéressantes si on prenait des ratios un petit peu plus simples, mais peut-être parlants, c'est-à-dire pour connaître finalement le caractère progressiste ou pas d'un système de retraite, on pourrait faire un ratio du type montant global des pensions payées en une année rapporté au montant global des salaires. Et donc on aurait une idée des choix sociaux qui ont été faits pour, lorsqu'on est actif, eh bien, se préparer une retraite en payant celle des autres pour en bénéficier quand on sera soi-même en retraite. On pourrait dire que ce serait bien la traduction d'un choix politique et social qui est peut-être consommé un petit peu moins pendant qu'on est actif, mais pouvoir sortir plus rapidement du marché du travail tout en s'assurant une consommation raisonnable plus tard.
Ce serait une mesure de la solidarité intergénérationnelle.
Solidarité intergénérationnelle, et puis en même temps, c'est aussi un choix intertemporel pour chaque individu. Bon. Mmh. Mais ça, on ne veut pas le mettre au premier plan, parce que si on présentait les choses comme ça, finalement, on rétablirait l'idée qu'il y a un arbitrage travail-loisir qui peut s'effectuer un petit peu collectivement. Or, ça, c'est devenu véritablement le tabou.
Alors, il y a une autre question. Vas-y. Ce que je voulais soulever, c'est la question du rôle de la crise dans la décision de cette réforme. Bon. Fillon, je refais encore référence à cette émission, où Fillon n'a pas été contredit, hein, il n'y a pas eu de débat, les gens se sont succédés. Fillon dit la crise, non, c'était simplement un accélérateur, ça nous a fait prendre conscience qu'il fallait faire assez vite. Et ensuite, les leaders syndicaux CGT et CFDT, donc c'était Chérec et Thibault qui étaient là, ont dit la crise est pour les deux tiers dans le problème du financement actuel de des retraites. Alors, quel est... Alors, je ne sais pas si c'est quantitatif ou est-ce qu'on veut dire que finalement, ce type de réforme, c'est essentiellement la volonté du gouvernement d'envoyer un signal au marché financier.
Mais pour prolonger un peu la question de Jean, en même temps, quand même, cette réforme, elle a été annoncée avant la crise. Dans le plan, dans le programme politique de Sarkozy.
Sarkozy avait dit qu'il toucherait pas la retraite à
60
ans.
Justement, ouais. C'est l'argument, cet argument-là, justement, beaucoup de gens l'avancent, notamment les journalistes l'ont dit. Il aurait dû faire l'objet d'un référendum ou mis comme débat pour la prochaine présidentielle, parce que Sarkozy ne l'avait pas dit.
Ah oui, d'accord. Donc il y a une accélération de.
Non mais on est obligé de faire des hypothèses là sur la manière dont les choses ont été préparées et sur la stratégie du gouvernement. Mais alors mon hypothèse, j'ai le sentiment que bien entendu la crise a servi comme bien souvent de bras de levier pour une stratégie du choc. Bon, donc quand il y a un mauvais coup, quand les gouvernements néolibéraux ont un mauvais coup à faire passer. Une tempête comme Katrina, ça peut aider. Une crise financière, ça peut aider à tétaniser les populations et à faire passer des remèdes prescrits dans l'urgence, surtout s'ils sont annoncés sous l'angle du sacrifice, etc. Bon. Donc je pense que la crise a été aussi instrumentée pour faire valoir l'aggravation des déficits publics. Mais la crise n'est pas responsable à long terme du problème de financement des retraites. Et je pense que, comme dit Guy, effectivement, ce problème de financement a été bien perçu depuis 2-3 ans. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que les réformes précédentes de droite n'étaient pas financées. Et qu'on s'est aperçu d'ores et déjà qu'il ne suffit pas d'augmenter l'âge de départ à la retraite pour que ça se finance. Et donc le débat commençait à émerger, en particulier au sein du comité d'orientation des retraites, en disant « mais bon, il faut examiner tous les scénarios et tous les leviers ». Et donc le corps avait fait des schémas en disant « bon, et si on fait des mixtes, allongement de la durée de cotisation, réduction des pensions et augmentation des cotisations ». Voilà. Et ça, je pense très sincèrement que le gouvernement ne voulait pas en entendre parler. L'idée même qu'on puisse payer une retraite, et donc qu'il faille augmenter éventuellement les cotisations, ou encore pire, les prélèvements sur d'autres types de revenus, en particulier les revenus du capital ou les revenus du patrimoine, ça, il ne voulait absolument pas envisager cette solution, puisqu'il était arc-bouté à la promesse de baisse des impôts de Sarkozy, c'est-à-dire de baisser les prélèvements obligatoires de 4 points sur sa mandature. Bon. Donc je pense que c'est ça qui a déclenché et qui a précipité l'annonce d'une réforme, qui pouvait encore attendre, en disant il faut tout de suite dire que non, on veut sauver le système par répartition, parce qu'on sait qu'il n'est pas financé, et la solution qu'on prend, c'est celle qui ne marche pas, c'est-à-dire celle d'annoncer l'allongement de la durée de cotisation. Je vois plutôt les choses dans cet ordre.
Ouais, moi c'est aussi ce que je ressens, parce que bon, nous dire qu'on va allonger la durée de cotisation, ça fait quand même quelques années. Hein. 2003, c'est ça, 93, etc. C'est ça aussi, quoi. Hein. Donc quelque part, travailler plus pour rééquilibrer le budget de système des retraites. Là on a vu hein, les grands arguments présentés de jolie manière. Quand on lit le dossier de presse hein, de présentation de cette loi. Donc, dossier de presse du gouvernement, on peut y lire « Les salariés doivent être physiquement usés au moment de leur départ en retraite hein, ». Donc, on en arrive quand même dans...
Au
moment de leur départ en retraite.
Des mesures de pénibilité.
C'est, ouais, effectivement, hein, c'est dans le chapitre pénibilité.
Quand même.
C'est un gouvernement social.
Oui, mais c'est quand même... C'est même par rapport à la question de la pénibilité, quoi. Hein, quand on dit ça dans un dossier de presse, c'est ça fait mal, non ?
Mais en même temps, c'est exactement ce dont il s'agit. Parce que la pénibilité a été envisagée sous l'angle du handicap. C'est-à-dire que pour que votre travail soit reconnu un travail pénible, il en faut des preuves tangibles. Et la preuve tangible, c'est que vraiment vous êtes usé ou cassé.
Au moment où vous demandez à partir.
Au moment où on demande à partir. Et il faut avoir 10% d'invalidité pour bénéficier des mesures des pénibilités.
À la différence de la pénibilité, qui serait l'estimation que il peut y avoir un effet différé de cette pénibilité sur l'état de santé après la retraite, par exemple, le cancer produit par les conditions du travail se déclare à 63 ans.
Alors, non seulement ça, mais la pénibilité, elle peut être aussi appréciée. Enfin, si on regarde la notion, je ne dis pas qu'on puisse l'approcher concrètement, mais la pénibilité, c'est aussi des gens qui ont fait des boulots pénibles pendant 40 ans et dont la satisfaction au travail ou la peine au travail a été supérieure à celle des autres. Même si ça n'avait pas de conséquences par la suite. On pourrait dire même s'ils se redressent le lendemain de leur retraite et qu'ils se tiennent mieux debout, parce que justement ils ne font plus un boulot pénible, mais pendant 40 ans ils en ont peut-être bavé plus que les autres. Mmh. Et donc on pourrait dire d'un point de vue abstrait, ceci pourrait être pris en compte. Je ne sais pas comment on fait après concrètement, mais c'est évidemment pas du tout de ça qu'il s'agit, c'est pas de ce type de compensation.
C'est aussi une manière de réduire le déficit, en fin de compte, puisque quelque part, on peut aller vers une espérance de vie qui va finalement diminuer. Quoi.
Ben, il n'est pas impossible qu'on constate ça. Si les gens doivent travailler 2 ans de plus dans des conditions extrêmement difficiles, il n'est pas impossible soit qu'on constate des effets gravissimes sur le taux de mortalité, mais ou qu'on constate aussi une augmentation des dépenses de santé liées à ce type de politique.
Alors si ça vous convient pas, hein, ce projet de loi qui est toujours un projet, il y a des rendez-vous, je pense, hein, pour exprimer son désaccord.
Oui, il y a des rendez-vous, on va les citer. Peut-être auparavant, s'interroger sur les rapports de force en présence sur ce dossier des retraites. Parce que dans ton introduction, Guy, tu disais que le gouvernement était fragilisé dans ce dossier par un contexte général, etc.
D'une manière générale, pas forcément ouais, dans ce dossier.
Oui, mais en fait, il apparaît quand même finalement très, très dur et très, très sûr de lui. En fait, en disant, de toute manière, on ne bougera pas sur les deux bornes, hein, sur le 62 et 67. Alors qu'il y a eu 3 millions, je crois, c'est ça, 3 millions de personnes dans la rue.
Selon les sources, hein, c'est entre 1 million à 2 et.
Enfin bon, et énormément de monde,
oui,
de toute manière.
Il y a eu plus de monde que moi. Bon.
Donc il ne bouge pas.
Et surtout,
ça veut dire quoi, ça veut dire...
Excuse-moi, Jean, ouais. On parle du chiffre de manifestants, mais on ne parle pas des grévistes. Quoi. Et il y a eu beaucoup de grévistes, plus de grévistes, hein, notamment dans le secteur privé. Alors bien sûr, hein, ça ne se comptabilise pas comme dans le public, et on peut débrayer 2 heures, etc. Hein. Mais il y a eu beaucoup plus de grévistes lors de ce dernier rendez-vous, là, le 7 septembre, que tout au long du premier semestre 2010. Et aussi des manifestations, hein, ça a été noté par de nombreux observateurs, beaucoup de manifestations dans des petites villes, des villes moyennes, ou dans la région, par exemple, il y avait 10 000 personnes, selon les ex-renseignements généraux, hein, selon la police, 10 000 personnes à Boulogne.
Hein, à Dunkerque.
À Dunkerque, il y avait aussi beaucoup de monde, mais à Boulogne, oui, il y avait 10 000 personnes le 7. Hein. Il y a beaucoup de petites villes de France comme ça où il y a eu des manifestations, 3 000, 4 000, 5 000. Donc un mouvement, hein, qui ne se concentre pas effectivement sur quelques gros rendez-vous.
Il y a eu 5 000 personnes à Figeac.
Oui, c'est ça. Hein. J'ai lu ça, hein, dans un certain nombre de...
Ouais, donc un mouvement qui s'est étendu, ouais, et qui s'est approfondi. Un vrai mouvement populaire de rejet de la réforme. En même temps,
enfin, rejet de la... Oui, le mouvement, oui. Oui, ouais. D'accord.
Et en même temps, un gouvernement qui est inflexible. Donc, d'une certaine manière, on se dit que Sarkozy en fait la bataille qui va lui permettre de dire « je me présente en 2014 ou en 2012, pardon. »
2012, ouais.
En 2012. C'est là que ça se joue à droite pour moi. Et en même temps, je pense qu'il a certainement intériorisé dans son calcul le fait que les centrales syndicales, les directions syndicales majoritaires
sont pas pour le retrait du projet. Elles sont pour une...
Ouais, et qu'elles n'iront pas jusqu'à dire faisons la grève générale, quoi. Passons pas à l'étape au-dessus. Elles vont essayer de gérer un peu ce mécontentement tout en l'organisant aussi. Hein. Il faut voir les choses réelles. Les grandes centrales syndicales mobilisent énormément.
Si on parle de la CGT, de la CFDT.
Ah oui, elles mobilisent énormément hein, dans la rue. On a vu dans le cortège de Lille, le cortège de la CGT, par exemple, était énorme. Énorme.
Et puis la CFDT
mobilise.
Dans le secteur privé, c'est deux organisations qui restent... qui reste très très forte. Quoi.
Donc le calcul de Sarkozy, c'est quand même de dire les organisations syndicales n'iront pas jusqu'au point d'affrontement qui pourrait déboucher sur une crise. Il va y avoir une gestion un peu dans laquelle, gestion du mécontentement, on surfe sur un mécontentement qu'on contribue aussi en même temps à organiser. C'est un peu le débat qui a traversé l'intersyndicale au niveau national. Hein. Ceux qui étaient pour rebondir tout de suite le 15, c'est-à-dire ce mercredi, et ceux qui étaient pour quelque chose à plus éloigné. Mmh. Et finalement, ça sera le 23. Mmh.
Ce qui n'est pas si éloigné que ça, en fin de compte. Hein.
Ouais.
Mais avec une
mais après le vote.
Voilà. Hein, après le vote à l'Assemblée nationale, il reste le Sénat. Hein, donc la loi n'est pas adoptée définitivement. Hein. Mais avec quand même une particularité, c'est qu'il y a toujours quand même l'unité syndicale, même si FO hein, est en retrait, puisqu'il n'y a pas une demande claire du retrait de la loi, de cette loi pour les retraites. Et si Solidaires conteste un petit peu la stratégie hein, d'action syndicale, mais ils sont toujours tous là. Hein. Et même s'il y a une analyse de la situation et de la question des retraites qui est quand même assez qui est divergente hein, au niveau des organisations syndicales. Et moi je pensais que d'ailleurs le gouvernement aurait quand même joué toujours cette stratégie d'essayer de créer la division et notamment bon, la CFDT demander qu'on abandonne les 67 ans hein, c'est-à-dire reculer 2 ans aussi l'accès, le passage de 65 à 67 ans. Je pense que pour le gouvernement, c'était pas trop compliqué, quoi. Hein, et à la limite, on peut toujours y revenir, quoi. Donc, il aurait pu mettre en difficulté l'intersyndicale, parce que qu'aurait fait, hein, c'est un petit peu ce qui s'est passé en 2003, qu'aurait fait la CFDT si le gouvernement avait lâché là-dessus. Il l'a pas fait, hein, donc il y a toujours l'unité syndicale. Et une unité syndicale qui se renforce parce que, bon, ça a été dit, hein, Jean t'a cité l'émission, mais quand on lit hein, les interviews de Thibault, de Chirac, etc., on a vraiment le sentiment qu'il n'y a aucun dialogue social. Il ne s'est rien passé cet été, alors qu'il y a des rendez-vous qui devaient être pris, etc. On se fout vraiment de la gueule, enfin, le gouvernement se fout vraiment de la gueule des organisations syndicales, même de celles avec lesquelles il pourrait travailler pour. Négocier, avancer sur la question. Et donc ça, quelque part, ça renforce l'unité, et ça va finir peut-être par agacer. Et donc, ces organisations majoritaires peuvent aussi être débordées hein, par leur base, hein, à un moment donné, et qui vont estimer que bah, soit on y va, soit on arrête. Parce que tu parlais de la journée du 23, la journée du 23, c'est quand même... rebelote par rapport au 7 sans crescendo. Hein, c'est d'ailleurs pour ça que bon, je pense FO et Solidaires n'ont pas signé l'appel, même s'ils appelleront à être dans la rue, à faire grève le 23 et éventuellement aller au-delà. C'est qu'on attendait un petit crescendo. Si on nous avait dit le 23, grève, on appelle clairement à la grève générale, on bloque l'économie du pays une journée, comme ça va se faire en Espagne le 29, etc. Je pense qu'il y avait moyen de le faire. Et donc, il y a des salariés, il y a des syndiqués, des syndicalistes qui, moi, je pense, sont prêts à déborder hein, les consignes de leurs organisations. Donc, on va voir ça le 23.
Laurent ?
Ouais, je pense que c'est ça aussi qui fait que la position des syndicats est pas si avenante, quoi, pas si confortable. Mais je crois pas que le rapport de force un peu comme toi, fasse peur à Sarkozy pour l'instant, parce que là, ils ont une vraie décision à prendre. Soit ils font un petit peu comme ils ont fait par le passé, ils ritualisent le mécontentement et ils nous font acheter une nouvelle paire de chaussures tous les deux mois pour aller manifester. Soit ils durcissent un petit peu, ils accompagnent un durcissement du mouvement. Et là, franchement, il y a un choix à prendre, il y a un choix à faire. Et donc, tant que ce choix n'est pas fait, il est fait quand même. C'est-à-dire le choix de ritualiser l'affaire et finalement de ne pas lui donner, un véritable débouché. Donc moi je pense qu'en ce moment, la situation n'est pas du tout confortable pour les syndicats. J'étais même un petit peu étonné qu'on puisse d'une certaine manière, nous inviter à venir défiler dans la rue le 7 sans donner suite tout de suite. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe le soir du 7 ? Bon, on rentre à la télé, on regarde, mais le 20h, chérie, comment qu'on était, 2 millions, bon, pas sur la une, il y a du foot, quoi. Et grosso modo, ça, on fait ça depuis 10 ans. On va manifester, le soir, on se compte en regardant le journal de 20h, mais il n'y a pas de suite. Après, peut-être, cette manifestation, il fallait peut-être donner une petite indication du style après la manif, vous rentrez pas chez vous, vous rentrez dans vos usines, vos entreprises, vos banques, vos facultés, vos lycées, vos hôpitaux, et puis vous discutez un petit peu le bout de gras en Assemblée Générale, qu'est-ce qu'on fait ? Quelle suite vous voulez donner au mouvement ? Je crois que du coup, le fait que ça n'ait pas été fait au bon moment, c'était le bon moment de le faire, me fait craindre une espèce de promenade d'automne. Je peux me tromper. Hein. En tous les cas, que les syndicats sont pour une promenade d'automne. Et en faisant peut-être, en donnant du poids peut-être à l'hypothèse de Guy, qui est que il est possible qu'il soit débordé.
Ouais. Ben on va voir. Hein, c'est situation incertaine. On va voir le 23. En tout cas, il y a quand même un phénomène qui montre quand même la profondeur du mouvement de refus de cette réforme, c'est quand même que les argumentations, on ne peut pas raconter n'importe quoi aux gens. Je pense qu'il y a quelque chose qui a à voir avec la manière dont les gens s'étaient emparés du débat sur le traité constitutionnel d'Europe, c'est-à-dire européen là, hein. Les gens se sont emparés de la question, ont étudié les choses, échangent les arguments, ça circule beaucoup, hein, l'information, la discussion, etc. Et les gens ne sont pas prêts à avaler n'importe quoi. Quand même, je pense que ça, c'est un signe quand même.
D'ailleurs, il y a des collectifs. Hein, c'est une mobilisation qui dépasse simplement les organisations syndicales. Il y a des collectifs qui se mettent en place, un collectif de défense des retraites, qui regroupe des syndicats, des associations, des organisations politiques, ATTAC et compagnie. On en a un sur, au niveau régional, il y en a un sur Arras, il y en a un peu partout. Quoi. C'est vrai que le parallèle avec le traité est intéressant. Je reviens un petit peu sur la journée du 23. Cette journée du 23, même si elle peut paraître en termes d'appel faible, effectivement, moi personnellement je suis d'accord avec ce que tu dis, Laurent, on attendait déjà le 7, on aurait aimé qu'il y ait quelque chose tout de suite quoi, hein, derrière. Mais en même temps, quand on sait ce qui s'est dit lors de cette intersyndicale nationale qui s'est réunie le lendemain, le 8, hein, et les positions des uns et des autres, le 23, c'est un peu surprenant parce que bon, la CFDT était sur une manifestation un dimanche, hein, une manifestation sans grève. La CGT était pour des actions le 15, le mercredi 15, jour de finale du vote au Parlement, mais pas avec des grèves, hein, des actions en direction des députés, des élus, etc. Avec un rendez-vous suivant le 29 septembre, à l'occasion d'une journée de mobilisation européenne, hein, avec pour nous, pour le secteur nord de la France, une manif à Bruxelles. Donc ils étaient sur ces positions-là, alors que la FSU, Solidaire, était effectivement pour enclencher très rapidement le 15 et le 16 avec un appel crescendo, avec grève, etc. Et la journée du 23, aucune des organisations ne l'avait l'avait annoncé d'emblée. Hein, c'est un compromis qui a été trouvé. Et avec un risque, hein, on l'a évoqué, hein, sans le dire clairement, c'est que si on fait moins le 23, si les organisations font moins le 23 que le 7, Bon, c'est tout, hein, c'est clair. Mais je pense qu'il y a un pari qui est fait et c'est jouable, notamment dans le secteur privé. Autant au niveau secteur public, je pense que la mobilisation sera du même niveau, en tout cas pas supérieur, hein, puisque bon, pour manifester, il faut quand même être en grève. Et je termine, Jean. Et donc, il y a notamment dans l'éducation, hein, qui est quand même le gros bataillon de la fonction publique, il y a déjà 2 jours de grève pour certains personnels, hein, puisqu'il y avait un appel à la grève le 6, éducation, plus le 7. Donc les gens font aussi leur calcul. Donc dans la fonction publique, ça risque d'être limité. Par contre, dans le privé, le mouvement prend de l'ampleur. Donc on pourrait avoir une mobilisation encore plus importante, peut-être dans le secteur privé, et c'est ça qui pourrait déclencher vraiment des suites assez rapides et plus fortes.
Alors pour terminer rapidement, les rendez-vous à Arras le 23, à 10h en manifestation à Arras.
Voilà, c'est un remake du 7, hein, donc rendez-vous place de la gare à Arras, à appel de toutes les organisations syndicales signataires au niveau national, donc 10h place de la gare.
Et la région.
14h30 à Porte de Paris, l'après-midi à Lille.
Les vinyles, William Brooker, il craque et parfois ça passe mal. Hein. Le journal de Tumulte avec Laurent Cordonnier, économiste et enseignant à l'Université Lille 1. On a parlé des retraites. Quelques mots sur les nouvelles recettes du gouvernement en matière de fiscalité, Laurent.
Oui, on reviendra là-dessus, peut-être. On reviendra là-dessus, effectivement, mais puisque il n'y a pas seulement les retraites ce mois-ci à l'Assemblée nationale, il y a la préparation du budget pour l'année prochaine qui commence à être en débat au Parlement le 29 septembre, il me semble. Là aussi, une équation un petit peu particulière pour le gouvernement parce que, bien sûr, la crise a profondément creusé les déficits publics, pas seulement en France, en Europe, aux États-Unis, à la fois parce que les recettes fiscales ont baissé presque mécaniquement, mais aussi parce qu'il y a eu des plans de relance. Et nous sommes dans la deuxième phase, on pourrait dire, de la crise, où on a abandonné les plans de relance keynésiens et où on convie l'ensemble des populations européennes à la rigueur et au sacrifice. Mais un sacrifice qui est corseté et complètement borné en France, encore une fois par les promesses du candidat Sarkozy, qui sont de ne pas augmenter les impôts sur la durée du septennat et même réussir à faire baisser le taux des prélèvements obligatoires. Alors la discussion budgétaire avec, disons, un déficit de 150 milliards d'euros par an, qu'il faudrait ramener à peu près à 50 milliards d'euros en l'espace de 4 ou 5 ans, ça ce sont les engagements, en l'espace de 3 ans, ce sont les engagements de la France auprès de l'Europe, réussir à faire 100 milliards d'économies budgétaires par an pour la France, dans un contexte où on ne veut pas augmenter les impôts, c'est un petit peu ça l'équation compliquée du gouvernement. Alors comment il compte s'en sortir ? En tous les cas, ça c'était ce qui était annoncé avant l'été, mais je pense que tactiquement, ça tient toujours. Comment on va trouver les 100 milliards ? D'après le gouvernement, ce sera 45 milliards de réduction de dépenses publiques, qui passent principalement par un blocage en volume des dépenses. C'était au départ des économies de 5 milliards annuels hein, sur les niches fiscales. Là, maintenant, le gouvernement annonce 10 milliards, un petit peu sous la pression parce qu'il y a eu le rapport de la Cour des comptes. C'était suppression de 15 milliards des mesures de relance, donc l'économie sur les mesures de relance. Et puis on comptait sur 35 milliards de recettes supplémentaires qui viendraient de l'augmentation. Du rétablissement de la croissance. Voilà l'équation que cherche le gouvernement. Apparemment, il est tout de même difficile d'arriver à faire 45 milliards d'économies sur les dépenses publiques. Il n'est pas du tout évident non plus que la croissance ramènera spontanément les 35 milliards recherchés. Et donc, le gouvernement se demande comment tenir cette affaire sans augmenter les impôts. Et l'orientation qui est prise, c'est de s'attaquer aux niches fiscales, comme on dit, qui sont les dégrèvements, abattements, ristournes sur les impôts, et qui s'élèvent en France à peu près à 74 milliards d'euros par an. Bon, dans ces niches fiscales, toutes ne sont pas inutiles, stupides et en faveur des riches. Et donc, c'est en essayant d'aller puiser dans ce vivier. Mais alors, on n'en dira peut-être pas beaucoup plus aujourd'hui. On fera un tableau plus complet la fois prochaine. Ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est qu'on ne s'y retrouve plus. Parce que entre les annonces qui ont été faites avant l'été, celles qui ont été faites pendant l'été, celles qui sont faites maintenant concernant la réduction de ces niches fiscales, on s'y perd, il y en a une multitude, et en plus le gouvernement annonce et puis revient sur les annonces sous l'effet des lobbies qui disent « Ah ben non, touchez pas à ma niche fiscale à moi », donc on sait plus véritablement où on en est. Et en particulier, la dernière annonce du ministre Barouin était un petit peu, le ministre du budget était un petit peu piteuse. C'était bon, on va aussi procéder à un coup de rabot sur l'ensemble des niches fiscales, hein, sans regarder laquelle. On va tout prendre en lot. Et alors, ce coup de rabot, on nous l'annonçait de 10% sur les niches fiscales. Alors, je fais un calcul, 10% de 74 milliards, ça fait 7,4. Et finalement, on nous annonce un coup de rabot de 500 millions d'euros. Sur les niches fiscales. Ce qui a fait dire à Gilles Carré, qui est le rapporteur du budget à l'Assemblée nationale, UMP tout de même, que ce n'était pas un coup de rabot, c'était un coup de lime à ongles. Voilà. L'appellation est aimable et sans doute proportionnée. Mais M. Barouin nous explique que la chose suivante, évitons le toujours plus en matière de réduction des niches fiscales et des hausses d'impôts. C'est vrai qu'on était lancé comme une bombe dans le toujours plus à la chasse aux niches fiscales et aux réductions d'impôts. Il faut quand même rappeler quelques chiffres. Le taux de prélèvement obligatoire est passé de quasiment 44% en 2006 à 41,6% aujourd'hui. Hein ? Et les deux principales raisons de cette baisse des taux des prélèvements obligatoires, pour les deux tiers, c'est-à-dire pratiquement 70 milliards, c'est dû aux baisses d'impôts qui ont été votées depuis 2000 et à leurs effets qu'on est en train de payer aujourd'hui. Et des baisses d'impôts qui concernent pour 30 à 40 milliards l'impôt sur le revenu. Donc quasiment, il devient inexistant. Bon. Et entre 10 milliards de baisses de l'impôt sur les sociétés et 6 milliards en régime stabilisé de baisse de la taxe, professionnelle. Bon, il n'y a plus personne qui paye l'impôt dans ce pays. Donc, comme si on était dans la tendance à la montée du socialisme avec une gourmandise fiscale énorme. On est exactement dans le sens inverse. Et donc, la vraie question, c'est comment on va rechercher de l'impôt aujourd'hui. Peut-être on peut dire, en encore une minute, on peut dire deux choses rapidement. Ou, ce qui est assez frappant quand on regarde la structure de la fiscalité en France, c'est qu'on a de moins en moins d'impôts progressifs. La TVA rapporte 7% du PIB. C'est le principal impôt. Il n'est pas progressif, il est proportionnel. C'est-à-dire que quels que soient vos revenus, vous payez en proportion de ces revenus sans progressivité. 7% du PIB, la TVA. La CSG, 4,3%. La CSG n'est pas non plus un impôt progressif. C'est un taux unique sur l'ensemble des salaires. 4,3% du PIB. Le premier impôt progressif qui arrive, c'est l'impôt sur le revenu. Il ne représente que 2,6% du PIB. Ensuite, vous avez l'impôt sur les sociétés. Il n'est quasiment pas progressif, 2,5%. La taxe intérieure sur les produits pétroliers, 1,2% du PIB, pas progressif non plus. Et puis alors, si vous allez voir les impôts sur le patrimoine, l'impôt sur la fortune représente 0,2% du PIB et les droits de succession, 0,4%. Du PIB. Ce qui fait que si on calcule bien, en France, les impôts non progressifs, c'est-à-dire ceux qui sont correcteurs des inégalités, sont les impôts non progressifs, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas correcteurs d'inégalités, les moins justes, représentent 5 fois le montant des impôts progressifs. Bon. Donc là, il faut faire extrêmement gaffe. On est parti dans une direction peut-être extrêmement périlleuse, dont on commence peut-être à voir les effets dans la structure des revenus. Je vous donne un chiffre quand même. De 2004 à 2007, les 90% des revenus les plus bas ont augmenté de 9%, soit de 1 400 euros annuellement. hein, 90% les revenus les plus bas, c'est-à-dire l'essentiel de la population française, n'a quasiment pas vu ses revenus augmenter. Par contre, les 1% les plus riches les ont vus augmenter en moyenne de 16 000 euros, les 0,1% les plus riches de 72 000 euros annuels pour une personne, hein, c'est ramené à une personne, et les 0,01% les plus riches les ont vus augmenter de 361 000 euros. Bon. Donc au niveau des inégalités de revenus, salariales, mais aussi pour beaucoup revenus du patrimoine et revenus exceptionnels, c'est en train d'exploser en haut. Bon. Donc si on ne recalibre pas correctement les impôts, c'est sûr que d'un pays relativement égalitaire, si on se compare aux autres, on peut rapidement devenir un pays très inégalitaire.
On termine par deux brèves, moins que Guy ait quelque chose encore à rajouter ensuite.
Bah, non, priorité à l'actualité.
Ouais, donc d'abord une conférence débat, enfin je ne sais pas trop comment il faut l'appeler, en tout cas ça a lieu mercredi 15 septembre, donc ce mercredi, il sera temps pour ceux qui nous écoutent ce soir et ceux qui nous écouteront la rediffusion demain, ça sera trop tard. Donc mercredi 15 septembre, c'est à 20h au cinéma L'Univers, 16 rue Danton à Lille. Donc c'est la présentation du projet de loi Besson concernant les étrangers et des demandeurs d'asile. Présentation qui sera faite par des spécialistes du droit des étrangers avec donc deux personnes, une du GISTI et l'autre de la CIMAT. Donc ça c'est mercredi 15, une réunion, une conférence intéressante. Et puis le mercredi 22 septembre, la fête de l'indignation à 20h. À l'aéronef, hein, donc c'est un concert de soutien pour une politique juste envers les gens du voyage et les Roms. Et il y aura Marcel et son orchestre, Loïc Lantoine, les New Stompers, Gilles Defac, Jeff Kino et Swing Gadget, donc à l'aéronef. Tarif unique 10 francs et le tout sera reversé.
10 francs sur antenne 2.
Hein. 10 euros et le tout sera reversé au collectif Soutien aux Roms, Solidarité avec les Roms et puis à la Ligue des droits de l'homme.
Et t'as rien annoncé sur Arras ou il n'y a plus rien peut-être à Arras?
Voilà, c'est ainsi que se termine ce magazine Tumulte. Fin de Tumulte, c'est tous les mardis de 20h à 21h30, rediffusion le mercredi à 15h et à 23h30 et sur le net radiopfm.com.